Tenez les mots dégueulasses, hein, mon bichon. On était fait pour se rencontrer, tous les deux. Hein? Hein, ma pouce? Approche. Approche. Allez. T'es vraiment bien bidoché. On dirait une Cadillac. Oh, salope. Oh, ce cul. Oh, ce cul. Ah, je vais te fourrer, je vais te fourrer. Allez, prêt. Allez, amène-toi. Amène-toi. Amène-toi.
Ah, vous étiez un mineur de messagerie. Vous êtes un
mineur. Amène-toi.
Ça vous excite.
Amène-toi.
C'est pas bien.
Amène-toi.
Bonjour ou bonsoir, vous êtes sur Radio Panique 105.4 FM ou sur son stream sur le site www.radiopanique.org. Je suis en compagnie d'Alexia, bonsoir.
Bonsoir.
De Frédéric à la technique, merci. Vous êtes également, enfin, je salue également les auditeurs de Radio Campus puisque cette émission y sera également diffusée. Le créneau Panicorama commence donc aujourd'hui. Elle va mordre d'ailleurs sur le créneau d'après, Panique sur la ville. Donc, c'est une émission dont le point de départ est la campagne lancée pour sauver le cinéma bruxellois ABC. Donc, vous avez sans doute entendu parler puisque ça a été largement couvert médiatiquement. Un cinéma situé boulevard Adolphe Max qui a fermé ses portes l'été dernier. Un cinéma d'un genre particulier puisqu'il s'était spécialisé dans le porno depuis les années 70. Menacé de disparaître car les acquéreurs potentiels n'ont pas tous dans l'idée de conserver l'affectation première de ce bâtiment, à savoir d'être et de rester un cinéma et un lieu de spectacle. Une fondation, la Fondation Cinéacte, dont on aura l'occasion de revenir en détail dessus sur son histoire et son cheminement un peu plus tard dans l'émission, s'est créée pour tenter de récupérer le bail à travers une campagne SOS Sauver le cinéma ABC. Dans cette émission, on aura également l'occasion donc, de revenir sur l'historique de ce cinéma des années 70 et de sa spécialité, le porno, à travers des interviews, notamment de Laurent Tenzer, membre actif du cinéma Nova, mais également cofondateur de Cinéacte. On entendra également Christophe Beer, acteur, réalisateur, historien de cinéma et critique de cinéma français, connu notamment pour avoir publié en 2011 le dictionnaire des films français pornographiques et érotiques en 16 et 35 mm. On entendra Éric Vautier également, de l'ASBL Rétine de Plateforme, ouais, pardon.
De Plateau.
De Plateau. Ouais,
la Rétine de Plateau.
Et cofondateur aussi de Cinéacte. On entendra des chansons grivoises, des extraits de films, comme par exemple le film Tenue de soirée, dont on a entendu une des répliques de Jean Mariel dans l'introduction tout à l'heure.
J'ai pas faire beaucoup mieux que ça.
Si j'ai mes petits secrets,
j'ai pas faire beaucoup mieux que ça.
Si j'ai mes petits secrets,
j'ai pas faire beaucoup mieux que ça.
Si j'ai mes petits secrets,
j'ai pas faire beaucoup mieux que ça.
Thank you.
la fondation Cinéact, donc, qui s'est chargée de sauver le cinéma à la BC en tentant de récolter des fonds et en faisant des appels à dons, s'est créée courant mars 2014. On retrouve dans cette fondation donc Laurent Tenzer, Katia Rossini et Alice Rioux du cinéma Nova. Dirk van Extergem et Wim Kestermans des studios Marcel, à l'origine du festival Offscreen notamment, et Eric Vautier de l'ASBL La Rétine de Plateau. Et leur appel est simple, le bâtiment et l'activité de ce cinéma risquent d'être repris par des franchises peu soucieuses de préserver l'intégrité du bâtiment et son activité de cinéma.
Oui, voilà, et du coup, ils ont organisé une conférence de presse le 9 avril, si mes souvenirs sont bons, en invitant donc tous les journaux, les radios à venir enregistrer leur appel et pouvoir le rediffuser. Donc on a eu la chance de rentrer dans ce cinéma, encore presque, enfin, qui gardait toute la décoration d'époque avec les annonces de striptease tous les samedis soirs.
Des mouchoirs au sol.
Des mouchoirs au sol et des fauteuils collants. Voilà, donc on va laisser Laurent Tenzer nous parler de ça.
Privilège de peut-être sourire, mais en tout cas, il y a des envieux partout dans le monde. C'est un public niche, on va dire, mais voilà, c'est ceux qui s'y intéressent avec la BC Estampage jusqu'en juillet 2013. Donc cette salle, devant laquelle passent beaucoup d'habitants de la ville en baissant les yeux, était le témoin d'une époque révolue, où le cinéma érotique avait sa place sur les boulevards, où le cinéma pouvait être apprécié pour ses qualités, ou on pourrait dire où le cinéma porno pouvait avoir des qualités. Donc la salle date de 71, donc dans les années 70, on est déjà dans... On assiste déjà à l'arrivée de vagues de cinéma érotique qui viennent d'abord de Scandinavie, puis qui naissent un petit peu partout, c'est très lucratif. Dans les années 70, c'est carrément un phénomène de mode, c'est la vague porno chic. Le beau monde pouvait fièrement s'afficher devant les séances de Gorge Profonde, de Devenis Jones, Emmanuel. On pouvait aller voir un couple le vendredi soir, un film porno au cinéma de quartier. Bref, c'est une époque différente. Sauf qu'en Belgique, la censure n'existe pas, mais la justice bienveillante veille. Et donc, il y a quand même une forme de contrôle de ce qui peut être montré. Donc, la pornographie n'est pas autorisée jusque dans les années 80. Donc, ce qui est montré ici n'est pas à strictement parler de la pornographie à l'époque. Les films étaient sensiblement amputés des passages les plus explicites. Mais on pouvait donc ici voir des films qui dataient du début des années 70, des films soft ou des films hard avec des passages manquants. On pouvait voir donc ici des films qui avaient un certain mérite cinématographique. Plus tard, on va partir à toute l'histoire de la pornographie, enfin tout le monde le sait, la pornographie se déplace vers les foyers avec l'arrivée de la vidéo, les salles de cinéma porno d'Euclide, celles qui restent encore dans le business. Se convertissent à la projection de DVD. Il y a quelques tentatives, comme ici, d'amener un plus avec des spectacles sur scène, mais ça ne dure qu'un temps. Et finalement, il ne reste plus que l'ABC, qui est une exception anachronique et qui continue vaillamment sa petite affaire. Bref, tout ça pour dire que certains d'entre vous connaissent la salle et remarquent un beau jour de juillet 2013, ou un jour plus vieux de juillet 2013, que le volet reste fermé. On se pose des questions, mais peu d'infos circulent. On ne sait pas trop ce qu'il est advenu du cinéma ABC. Puis les mois passent et finalement on est pris par la crainte de tomber un jour ici devant, sur le trottoir, sur des containers ou des ouvriers qui balancent des bobines et des projecteurs dehors. Et donc finalement on décide de prendre des renseignements et d'entrer en contact avec le propriétaire. On apprend avec soulagement que tout est intact, que rien n'a bougé, vraiment rien n'a bougé depuis le jour de la fermeture. On discute avec le propriétaire de la salle de la possibilité d'y organiser des choses et de la destination de la collection. On peut visiter le bâtiment avec lui, on découvre des aspects du bâtiment qu'on ne connaît pas, puisque on ne s'est pas aventuré par exemple dans les alentours des toilettes, on n'était pas si pour aimer que ça. On découvre aussi une fresque que vous avez pu voir en haut. Mais à ce moment-là, il n'est pas question d'utiliser la salle parce qu'elle est déjà promise à un locataire qui va la transformer en toute autre chose. Et donc, on se résigne à accepter sa disparition prochaine. Par contre, on se précipite pour sauver ce qui peut l'être. Et donc, on trouve un accord avec le propriétaire pour acheter la collection de films et de documents. C'est une collection impressionnante, mais assez mystérieuse, puisqu'aucun listing n'existe. Donc, on entend parler le chiffre de, on entend penser le chiffre de 600 films, ce qui est quand même énorme en volume quand ça représente une copie de 35 mm. Et en venant sur place, on constate effectivement que la maison est littéralement remplie de la cave au grenier des bobines de films. En quelques semaines, on peut organiser la sauvegarde de tout ça avec l'aide de la Cinémathèque Royale qui accepte de stocker des films. On mobilise nos troupes et on se lance dans 3 semaines intensives de déménagement qui tombent en plus en place au festival Offscreen. Et la coïncidence est que justement cette année à Offscreen, notre invité principal était un pornographe américain. Adli Metzger, un des grands noms du cinéma érotique artistique, entre guillemets. Et le jour même d'une projection au Nova, on tombe ici en préparant des choses sur une copie 35 de l'un de ses films qui était programmé à minuit au Nova. Donc ça nous réjouit évidemment sur le contenu de la collection. On fera d'autres trouvailles comme ça en organisant le déménagement, mais on n'a pas fini d'en faire le tour vu les centaines de kilomètres de véhicules qu'on a récupérés. Voilà, mais donc ça c'est toute notre histoire. Et pendant ce déménagement, on a aussi l'occasion de faire venir d'autres gens qui participent, qui donnent un coup de main, et qui du coup voient la salle et tombent sous son charme, et décident de reprendre contact avec le propriétaire à ce moment-là pour pas poser des questions. Et il se trouve que la convention de location qui était en cours jusque-là tombe à l'eau, et que le bâtiment est de nouveau à louer. Donc c'est comme ça que commence cette aventure-ci.
Donc voilà, c'était Laurent Tenzer en direct du Ciné ABC. Et donc cette aventure, visiblement, est plein de bonnes nouvelles, et même encore aujourd'hui.
Oui, donc elle a commencé de manière un peu artisanale. Donc c'était donc pendant le festival Offscreen, Laurent Tenzer le rappelait, le soir de la clôture de ce festival, donc juste avant la projection du film de clôture, il y a un petit groupe de personnes qui s'incrustent sur scène pour dire au public, s'il vous plaît, si ça vous intéresse de sauver un cinéma, restez après nous, restez après la séance. Je suis restée après la séance et donc la Fondation Cinéac n'existait pas, c'était juste quelques personnes de manière personnel qui tentait de mobiliser des troupes pour voir s'ils étaient suffisamment nombreux pour tenter leur chance. Ce petit groupe s'est étoffé, a créé une structure juridique. Ils ont choisi ils ont opté pour une fondation. Ils sont d'ailleurs soutenus par la Fondation Roi Baudouin, c'est eux qui gèrent leur compte. Donc cette fondation s'est très vite organisée pour diffuser cet appel. L'appel c'est faites des dons ponctuellement ou de manière mensuelle pour nous aider à payer le loyer de cette salle. Ça a été, comme je le disais en introduction, largement médiatisé. Je pense que tous les médias nationaux ont parlé du projet de sauvetage de la salle du cinéma ABC. Alors la demande de cette fondation, donc, c'est de récolter 60 000 euros. Pourquoi 60 000 euros? Ça correspond à peu près un an de loyer, garantie comprise, assurance, précompte, etc. Donc pourquoi s'assurer d'une année de loyer? Parce que donc il a été décidé que la fondation ne s'occuperait que de la partie immobilière et locative, et donc ce serait permettre donc à une autre structure qui doit encore se créer, qui n'existe pas encore et qui aura l'intense et excitant défi de monter un projet de programmation viable l'année d'après. Donc disposer de 60 000 euros, c'est permettre à cette future structure de programmation de pouvoir être délestée de l'angoisse du loyer pendant un an. L'appel a été entendu. La Fondation Roi Baudouin estimait jeudi dernier à 47 000 euros la somme donnée par plus de 350 personnes ou associations. Donc les relevés se font de manière hebdomadaire tous les jeudis. Donc nous sommes le jeudi 1er mai, donc ce soir ou demain, on aura donc la dernière estimation de cet appel à dons. Et on saura donc si la Fondation Cinéacte saura si c'est réaliste pour elle de signer le bail, puisque l'échéance fixée par le propriétaire, c'est bien, bel et bien de faire ça dans les prochains jours et de ne pas laisser traîner ça, parce que, on le rappelait, c'est un bâtiment qui intéresse pas mal de gens. C'est situé sur le boulevard Adolphe Max. Donc Fred tout à l'heure nous fera un petit point justement sur la localisation géographique de ce cinéma porno qui est dans un quartier en pleine mutation. Donc voilà, pour l'instant, on l'espère en tout cas. On a l'impression que la Fondation Cinéacte est en train de réussir son coup et va parvenir à signer le bail et en devenir le locataire. On passe à peut-être... il y avait les gens de... Enfin, on parlait de porno, Laurent parlait de porno soft, de porno trash, et il y a des pornos B et Z également, et il y a aussi de la littérature B et Z. Et Fred, par exemple, toi, tu lis des romans policiers.
Ouais, enfin...
Je t'introduis hyper mal,
ouais,
pardon.
Ouais, tu m'introduis. On avait fait dit de faire attention au vocabulaire.
Au mauvais jeu de mots.
Voilà. Donc, je ne vais pas me méfeuiller ou déflorer le livre en entier, même si c'est, je vais parler de la...
T'entends.
Une scène. Tu m'entends bien ?
Oui.
Bonjour, Naïma. Voilà, et donc oui, quand Naïma m'a parlé de cette émission, je suis allé dans ma bibliothèque directement sur un autre livre, puis celui-ci. Donc, un livre qui s'appelle « Pizza sur la touffe », écrit par Francis Misio. C'est un petit polar d'une centaine de pages. Et qui est justement, voilà, le personnage principal est un réalisateur de films porno de série Z. Et donc voilà, c'était un peu pour donner une idée de ce qu'il pourrait y avoir comme programmation dans ce cinéma. Et donc, je vais lire de ce livre une scène. Voilà, donc c'est parti. On arrête de régler. 4, 3, 2, 1, on tourne. C'était parti, mais il était temps. Le champ de concombre du diable schlinguait depuis des mois, et lui-même n'en pouvait plus de pouvoir enfin boucler son film. Fasciné par ce qu'ils avaient organisé et ce qu'ils venaient de mettre en branle, les deux associés virent apparaître une ligne d'acteurs sur la crête de la colline, telle une tribu indienne en colère à l'assaut de la cavalerie coincée dans la vallée. À cette distance, la nudité des acteurs n'était pas discernable, mais les caméras dissimulées en des dizaines d'emplacements parmi la verdure, au milieu des feuilles et des fruits jaunes prêts à exploser pour répandre leurs semences à plusieurs mètres, ne perdaient rien des détails ni de l'action. Des dizaines d'heures de rush devraient être visionnées et quelques jours de montage allaient être à envisager. Une entorse hostile aux imis, mais c'était le prix à concéder aux grandioses. Les silhouettes commencèrent à descendre en courant, nues et bras écartés, sur toute la largeur du versant de la colline. Elles se dispersèrent parmi les lettres végétales composant la sentence qui signait le panorama. Elles se sautaient dans les bras, s'enlaçaient, s'étreignaient, puis se couchaient et roulaient sur les plantes comme les consignes strictement minutées du scénario exigé. Bientôt, la foule des figurants avait entièrement envahi la phrase, les tiges et feuillages leur fouettant les jambes. L'orgie potagère avait enfin lieu. Kropka, qui était muni d'une paire de jumelles, constata que, sous le piétinement des coureurs, de plus en plus de concombres explosaient en libérant leur mitraille de graines. Le moment était venu, il leva le bras. Ozimi ordonna que les microcharges explosives réparties au pied des plans les mieux stratégiquement disposés soient déclenchées. Synchrone et surexcité, Kropka abaissa le bras tandis qu'Ozimi hurlait dans son tokiwoki. Sur la colline, une gigantesque réaction en chaîne se déclencha à la moindre explosion de poudre. Chaque concombre gonflé de semences éclatait en projetant son contenu sur les acteurs, les environs, l'air vibrait de graines qui sifflaient en tous sens. Les caméras enregistraient tout. Cela ne dura que quelques secondes, mais la scène fut pour Ozimi un moment aussi orgastique que sublime. Les corps nus, mitraillés par la semence de concombre. La peau des acteurs paniqués, rougie par le frottement des feuilles criblées, tassées, écrasées. Les actrices qui cessaient de simuler la jouissance en gémissant pour se mettre à hurler leur surprise et leur effroi. Les ardeurs en pleine débandade. La victoire du végétal se reproduisant dignement contre la furieuse fornication de l'humain. Le légume turgide contre des membres détumescents. Ça y est, tout est dit, estima Ozimi, qui était peut-être le seul à vraiment savoir ce que toutes ces gesticulations signifiaient. La distance connut une violente bouffée d'émoi artistique, la seule véritable de son existence, en appréhendant la grandeur unique de ce qu'il avait permis d'accomplir. Sa fortune dilapidée en un acte artistique d'une rare brièveté, il allait retrouver la quiétude de son existence comme un corps apaisé après les sursauts du tweet. Ozimi, au comble de l'extase artistique, ordonna enfin aux assistants d'enclencher la grande geste finale. Il leur intima l'ordre d'envoyer les pizzas. Quelques secondes après à peine, des dizaines de cercles, œufs, fromage, jambon, sifflèrent dans les airs comme des frisbees démentiels, projetés par des mini-catapultes dissimulés dans les pieds de concombre, achevant la vision apocalyptique née parmi les légumes déchiquetés. Les pizzas s'écrasèrent sur les corps, barbouillées des beautés improbables, des filles de rêve ou d'une nature vulgarité, maculant des étalons bellâtres humiliés. Les cris des acteurs et figurants descendaient du coteau et parvenaient, délicieux, aux oreilles du réalisateur qui se sentait une âme de démiurge. « Crudité des crudités !» hurla alors Osimi en transe, sous le regard devenu inquiet du jardinier municipal, avant de s'évanouir sous l'intensité de l'émotion.
Ouais. Waouh. Merci. Ça donne envie de cuisiner.
Bientôt cinéma.
C'est bientôt la saison des concombres en plus.
Voilà.
Et oui, voilà, donc en littérature aussi, on a du B et Z. Et donc, ouais, c'est les rendez-vous des premiers vendredis de mois à la Cinémathèque sont consacrés à ce genre de programmation au cinéma. Il y a d'ailleurs les studios Marcel qui les aident à la programmation. Je rappelle juste les noms donc des fondateurs de Cinéact. Donc il y a Dirk van Extergem et Wim Castermans des studios Marcel qui en font partie. Il y a Katia Rossini et Alice Rioux du Nova. Laurent Tenzer également. Je propose de faire une pause musicale. On peut peut-être rester un peu dans le ton orgasmique et s'écouter un peu de musique.
Ce matin, en me réveillant, quelle surprise en regardant mes couilles. Là, juste devant mes deux noix, c'est fou, je ne reconnais pas ma nouille. Je bande
à quelques quêtes qu'il a, ce mec-là.
Je bande
à quelques quêtes qu'il a.
On est sûrement un jour férié. Jamais je n'ai eu un tel vieil d'athlète. Raide, étendu vers le plafond, il coupe en deux mon horizon. C'est chouette, chouette. Oh, je bande
à quelqu'un qui l'a, ce mec-là.
Je bande
à quelqu'un qui l'a.
Ça c'est l'usage, ouais. Oh, quel quéquette que j'ai. Ça c'est l'usage, ça c'est l'usage, ouais. Oh, quel quéquette que j'ai. Je devrais m'en servir tout de suite en me faisant une petite
branlette.
Oui, une branlette. Mais j'ai peur si je prends mon pied. Je vais débander, ce serait trop bête, beaucoup trop bête.
Que c'est bon d'être demoiselle, car le soir. Quand doucement tombe la nuit, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais empeser la chemise, je me fais picorer le bonbon, je me fais frotter la péninsule, je me fais béliner le joyau, je me fais remplir le vestibule, je me fais ramener l'abricot. Je me fais farcir la motelette, je me fais couvrir le rigondin, je me fais gonfler la mouflette, je me fais donner le picotin, je me fais... fais laminer les crevisses, je me fais foyer le cœur fendu, je me fais tailler la pelisse, je me fais planter le mont velu. Je me fais briquer le casse-noisette, je me fais mamourer le bibelot, je me fais sabrer la sucette, je me fais reluire le berlingot, je me fais gauler la mignardise, je me fais rafraîchir le tison, je me fais grossir la cerise, je me fais nourrir le hérisson, je me fais chevaucher la chaussette, je me fais chatouiller le bijou, je me fais bricoler la cliquette, je me fais gâter le matou. Mais vous me demanderez peut-être ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient en peu de lettres. Le jour, je baise, tout simplement.
Et ben voilà, on en a encore une qui a un bon programme de journée.
Plein de moyens de jouir de plaisirs végétaux
et sucrés.
Donc c'était le premier morceau, c'était Je bande du groupe Les Charlots, et le deuxième morceau, c'était Colette Renard.
Voilà. Donc pour revenir à ce cinéma ABC sur le boulevard Adolphe Max, du coup, outre avoir ce passé historique un peu excitant, il reste quand même une structure architecturale très intéressante, étant donné que c'est un petit complexe avec un balcon. Et comme ils pouvaient l'expliquer pendant la conférence de presse qu'ils ont tenue donc dans ce cinéma, on pouvait remarquer que toutes les lignes étaient dirigées vers ce cinéma, qui a aussi une scène, étant donné qu'il y avait des spectacles de stripteaseuses. Et donc la rétine du plateau, c'était attaché à vraiment noter toutes les particularités de ce cinéma. Donc je vais laisser la parole à Éric Vautier, qui en parlera beaucoup mieux que moi.
Voilà, la rétine de plateau avait effectué en 1991, 4 ans avant le centenaire du cinéma, un inventaire exhaustif et scientifique avec des architectes, un travail de 4 ans visant à inventorier l'ensemble des salles de cinéma qui avaient été construites dans la région de Bruxelles-Capitale. On avait dénombré 156 salles représentant 446 écrans. L'ABC, c'est la fiche 61 de l'inventaire, avait bien sûr été inventorié à ce moment-là. Ce qui est, en me replongeant dans les notes hier soir, ce qui me frappe dans cette salle, c'est qu'en 1973, la demande de venir bâtir est introduite par une compagnie européenne de cinéma et confiée à l'architecte Danlé, qui a aussi en 1973 construit le balcon du cinéma galerie dans la galerie Saint-Hubert. Donc l'architecte d'Orlé, on lui connaît deux salles, celle-ci, et la modernisation du cinéma des galeries en 1973. 1973, c'est aussi la transformation du cinéma métropole rue Neuve. Et puis en fait, ce sera sept, il faudra attendre 78 pour la construction de City 2, le complexe de 8 salles de cinéma qui met UGC à Bruxelles, et puis 1987, la construction de Kinépolis. Donc on peut dire que 73, la construction de l'ABC, c'est la construction du dernier monovolume cinématographique à Bruxelles. Donc il n'y a plus d'autres salles qui auront été construites avec un balcon, architecturalement même un deuxième balcon qui fait office de cabine de cinéma. Et si vous vous placez à côté de l'écran, vous ressentirez très vite cette puissance des lignes qui correspond en fait aux axes de projection et aux axes de perception d'image. Là, vous êtes vraiment en contre-plongée, au balcon, on est en plongée, au deuxième balcon, on envoie l'image. Donc, on est vraiment pris, et on le voit bien sur les salles architectes, on est pris dans ce faisceau, ce faisceau d'image qui converge vers l'écran. Je dirais qu'on est happé vers l'écran. Ce qui est aussi intéressant dans la construction de cette salle, c'est qu'on est dans une maison bruxelloise du 19e siècle, construite en 1890, plus ou moins, et cette maison a été quand même violemment déformée pour y implanter une salle de cinéma. Et ça rappelle que tout au long du siècle, avant la guerre 14, il y avait 60 salles de cinéma en construction, en projet de construction avant la guerre 14. Le 20e siècle a été une période très riche pour la construction de salles de cinéma. On les construisait là où il y avait du passage. Et forcément, ici, on était sur l'axe Nord-Midi, anciennement le boulevard du Nord, devenu boulevard Adolphe Max. Et on est dans un environnement qui est le berceau du cinéma. En 1905, vous avez Van Batselhoven qui ouvre à l'emplacement de l'actuel Marivaux, le théâtre du cinématographe qui sera la première salle de cinéma de Bruxelles, faisant suite au Grand Café des Frères Lumière qui était dans la galerie Saint-Hubert. Très vite, les cinémas vont se multiplier. La période la plus forte est avant la 14. Et sur ce boulevard, on trouve encore aujourd'hui les vestiges de toutes ces salles. Et donc, la prise de possession de l'ABC est évidemment à situer dans un contexte plus global. C'est la revitalisation du boulevard Adolphe Max, en Spac Le Monnier, le boulevard central de Bruxelles, qui est promis sans doute à un bel avenir, d'autant que les travaux de la place Rogier se terminent. Et donc, le voisinage direct de l'ABC, c'est quand même le cinéma Plaza, qui appartient maintenant à l'hôtel Plaza, le cinéma Marivaux, qui appartient à l'hôtel Vendôme, le cinéma Variété, 30 ans de fermeture, qui est encore en mouvement et dont on reparlera certainement en 2015. Le Variété, c'est rue Malines. En face, il y avait le Cinéarc Nord, devenu aujourd'hui, c'est devenu un immeuble appartement, mais jusqu'à peu, c'était encore l'ancien théâtre Pathé, avant d'être le Cinéarc. Et puis on se prolonge, on va vers la place de Bouquer, il y a bien sûr le cinéma Paris, qui faisait partie du même groupe d'exploitation que l'ABC. Alors ABC veut dire étranger américain broadcast company, mais dans ce cas-ci, c'est Association Belge de Cinéma. Donc le cinéma ABC en fait faisait partie d'un groupe de cinéma érotico-pornographique, donc il y avait plusieurs ABC en Belgique, et là, j'ai eu l'occasion de consulter les feuilles de recettes. J'ai pris deux années clés, 88 par exemple, une quinzaine, et le chiffre d'affaires en francs belges était supérieur au chiffre d'affaires du cinéma métropole Rue 9, en tout cas en 1988. Donc on peut dire que le cinéma ABC était un cinéma qui était une véritable exploitation cinématographique, qui relevait d'ailleurs de la Fédération des cinémas de Belgique, qui était taxée au même titre que tous les exploitants. Et en 91, l'ABC s'est lancée dans une croisade, et à l'époque, je travaillais au Métropole, et je me souviens très bien de l'exploitant qui vient voir le directeur du Métropole pour une fameuse croisade contre la Savane. Et voilà. Donc c'était un cinéma qui était dans l'exploitation du cinéma, et c'est un peu un vestige oublié du cinéma, parce que finalement, un grand nombre de Bruxellois ne connaît peut-être pas cette salle. Et à l'invitation de Katia et de Dirk, en arrivant dans la salle, moi j'ai été directement happé par ces lignes convergentes vers l'écran. Et j'ai été séduit par la taille de la salle. J'ai 100 places. Ça correspond aujourd'hui à un volume de fréquentation. On a moins besoin d'outils de 1000 places. Et donc la taille et l'échelle de cette salle est assez extraordinaire. Et je crois que dans le projet, il y a bien sûr l'aspect culturel, mais il y a surtout l'aspect architectural d'un bâtiment. Vous voudriez construire cette salle aujourd'hui, ce serait impayable. Les balcons sont en béton armé, recouverts bien sûr de staff avec des plafonniers, on a pu remettre un peu de la lumière hier. Le sol est en lino, les murs sont en marqueterie, en liège et en lambris de bois. Tout ça est à rafraîchir, mais projetez-vous dans le futur avec une scénographie, avec une mise en lumière de cette salle. C'est un petit bijou, c'est un petit écrin, et c'est la raison, je crois, de la mobilisation des 6 personnes.
Brûle de partout, un film qui se suffit à lui-même. Je brûle de partout, un film qui n'a pas besoin de publicité. C'est pourquoi, volontairement, nous ne vous montrons pas d'image de « Je brûle de partout ». « Je brûle de partout » visa de contrôle cinématographique 49.085. « Je brûle de partout » n'a pas besoin de slogan publicitaire pour vous inciter à venir prochainement dans cette salle voir les aventures qu'il vous dévoilera. « Je brûle de partout » des femmes, des filles, des abusés, lascives, victimes de leur corps, soumises à toutes les turpitudes, esclaves au service de toutes les dépradations. Je brûle de partout une merveilleuse villa, construite sur des rochers frappés à longueur d'année par une mer déchaînée. Je brûle de partout des trafiquants, des policiers, des morts. Je brûle de partout des femmes au corps nu, des mains d'hommes, des cris. Je brûle de partout une atmosphère pesante, un climat très particulier. Je brûle de partout une soirée de frissons, de désirs, de peur. Brûle de partout votre prochain feu dans cette salle.
Oh. 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 Oh.
Voilà, c'est vrai qu'il y avait à boire et à manger dans les programmations des cinémas porno. Il y avait parfois de très bons cinémas porno. Il y avait aussi pas mal de gros navets et aller au cinéma, on n'y allait pas forcément pour la programmation à proprement parler. On y allait parfois
pour se rencontrer. Du coup, c'était donc juste après la guerre où les gens étaient plutôt grosse période du baby boom et tout ça, où du coup les gens lâchaient après cette longue période d'atrocité. Du coup, beaucoup de consommation, on va dire, beaucoup de recherche de, on va dire, divertissement. Et du coup, le cinéma apparaît vraiment comme une culture populaire accessible à tous. Et où, un monsieur nous raconte un peu son expérience au cinéma quand il était jeune.
Apparemment, le son ne passe pas. Tout à l'heure, il passait à l'essai. Bon, c'est dommage. On réessaye, Fred. T'as allumé la tranche? Ah oui, t'as allumé la tranche, t'es pas con.
Bon, en fait, donc ce monsieur racontait que donc il allait toujours au cinéma forcément pour rencontrer quelqu'un. Et à tel point, donc les cinémas étaient des lieux de rencontre à tel point que même les ouvreuses, en fait, une fois que la séance avait commencé, s'arrangeaient toujours pour installer un garçon, une fille, un garçon, une fille, de façon à ce que l'échange puisse se faire. Donc voilà, nous n'entendrons pas cette interview de ce pensionné de 72 ans.
Mais vous pouvez la réécouter
la réécouter sur le site de BNA BBOT, qui est la mémoire sonore de Bruxelles. Donc sur le site, il y a une base de données et vous pouvez la retrouver sous le... C'est quoi?
C'est la série 53.
Voilà, donc il faut chercher la série 53, pas dans les mots-clés, mais plutôt la recherche avancée. Voilà, une interview assez intéressante.
Et donc lui, ouais, c'est track 6 et 7, où il s'exprime justement pour dire qu'il vient faire des rencontres et qu'il raconte une anecdote notamment où il tombe sur une jeune fille un peu plus âgée que lui, parce que lui, à cette époque-là, il doit avoir 14-15 ans, et les filles sont en manque de garçons et cherchent par tous les moyens à s'acoquiner les faveurs de jeunes hommes. Voilà. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas pu l'entendre. Donc vous pouvez sauver le patrimoine du cinéma porno. Éric Wauthier s'est exprimé à ce sujet au niveau pour
l'architecturale
la partie architecturale. Il y en a d'autres qui tentent de sauver le patrimoine du porno, mais des films à proprement parler.
La culture porno, ouais.
Ouais, et c'est Christophe Beer, donc que je citais en introduction, qui a rédigé, publié le dictionnaire des films français pornographiques et érotiques en 16 et 35 mm. Donc ça a été publié en 2011. Et on écoute pourquoi il considère que c'est important de sauver ces pellicules.
Le vrai avenir de la pornographie, c'est déjà d'imposer son histoire. Qu'on finisse une bonne fois pour toutes par raconter l'histoire de la pornographie. Tant que cette histoire ne sera pas écrite, écrite à plusieurs mains, parce qu'il ne s'agit pas de faire un seul livre, il faut en faire plusieurs, enfin. Écrire cette histoire, c'est finir par faire prendre conscience qu'il y a une culture du cinéma pornographique, que le cinéma pornographique existe, que ça n'est pas juste un phénomène sociologique, par exemple. C'est pas du tout sociologique, c'est culturel. Tant que cette histoire ne sera pas prise en considération, le cinéma pornographique ira à volo. Je crois qu'il y a un véritable plan d'urgence de sauvegarde du cinéma pornographique à lancer, de même que depuis 15 ans, on s'est mis à restaurer, à travers le monde entier, dans toutes les cinémathèques, on s'est mis à restaurer les films nitrates. Je crois que, notamment en France, on est arrivé à la fin du plan nitrate. On a sauvé tout ce qu'on pouvait sauver. Le cinéma muet... qui a, je crois, au moins 80% de films disparus. Bon, on a quand même essayé de sauver ce qui était à sauver. Maintenant, il va falloir s'occuper du cinéma pornographique. Et je le dis sans provocation, c'est assez urgent. Surtout que, comme je vous l'ai dit, il a quand même été souvent dans les mains de gens qui en faisaient par pur commerce. Donc, dès le moment où ils n'ont plus pu vendre leurs films, ils s'en sont désintéressés. Ces films se sont dégradés. Il y a des négatifs qui dorment dans les labos. Il n'y a plus aucun ayant droit. Un jour, ça va disparaître, ça va être jeté. Vous avez des copies 35 mm qui ont été revendues pour trois fois rien dans des tas de pays. Maintenant, ces films ont été exploités jusqu'à la corde. Donc, il y a un véritable état des lieux à faire, déjà, pour ensuite, avec l'argent du contribuable, éventuellement.
Parce que...
Bah oui, oui, c'est un patrimoine, bien sûr, c'est un patrimoine. Mais pour que cette notion-là soit acceptée, c'est pas une mince affaire. Donc déjà, dans un premier temps, il faudrait prendre conscience que le cinéma porno fait partie de l'histoire du cinéma, tout simplement. Alors après, on peut rajouter Nadia la jouisseuse, la comtesse est une pute, orgie en cuir noir... d'autres, faudrait ajouter un Michel Rico, faudrait essayer d'être assez un film américain ou deux, effectivement. Par exemple, Story of Joanna de Damiano, ça ce serait pas mal de le citer. J'ajouterais bien aussi un petit porno bavarois, parce que c'est pas désagréable non plus.
Ja, Helmut, service réparateur.
Allô, ici Réma Technaki.
Ja, madame.
Je vous appelle parce que mon lave-vaisselle ne marche pas.
Jawohl, j'arrive tout de suite.
Alors oui, le cinéma porno, un genre à part entière, un patrimoine à préserver, à sauvegarder et à sauver. Donc c'est aussi l'un des enjeux justement du sauvetage de la salle ABC. Le Nova, Laurent Tenzer le disait, a réussi à racheter une bonne partie des 600-700 bobines qui étaient toujours stockées au cinéma à l'ABC. Donc c'est la Cinémathèque qui a gentiment accepté de stocker ce matériel et de le répertorier. Il y a tout un travail à faire, évidemment, j'imagine, là-dessus, d'archiviste, quoi. Et voilà, et on souhaite que cette collection connaisse une autre vie, quoi.
Soit disponible de nouveau, oui.
Donc, bon, là-dessus, on n'en sait pas plus, quoi. On ne sait pas du tout ce que va devenir ce stock de bobines, mais en tout cas, il est sauvé. Pourquoi c'est un patrimoine aussi? Parce que voilà, tu le disais, enfin bon, avec ce son qu'on n'entend pas du BNA BBET, les gens qui vont là n'ont pas de profil particulier. C'est pas forcément la misère affective et sexuelle qui les amène là. Il y a des couples qui viennent.
Ça tient du divertissement et de la sortie de week-end. Enfin, surtout dans les années 80 où c'est devenu presque une mode en fait d'aller voir des films porno. Enfin, entre amis, entre couples, c'était monnaie courante, finalement.
Voilà, et Marielle aime particulièrement ça aussi, on l'entendait tout à l'heure. Et il y a pas mal aussi de gens de passage, de touristes. Ça, on l'entendra, c'est juste après l'émission là, Panicorama. On va entendre le documentaire qui s'appelle Canal Strip, réalisé par Sarah Moon Ho, qui raconte aussi un peu le genre de personnages qui viennent voir des striptease, hein, parce qu'il y en avait à la BC, ils ont été obligés de se diversifier parce que la seule projection de film ne suffisait plus, et donc il fallait rentabiliser la salle le plus possible. Alors on va faire une petite interlude et on revient en studio dans quelques instants.
Vous aussi, vous êtes très sympathique. Et rangez votre pétard, vous serez encore plus sympathique.
Je vous propose un truc. Ma femme va mettre son déshabillé noir et on va se faire une jolie petite partie.
Une partie de quoi?
Jambes en l'air.
Garçon, fille. Le genre mélange.
Ça vous tente?
C'est-à-dire que...
Mais c'est-à-dire que vous n'avez pas tellement le choix. Parce que moi, je vous tiens au bout de mon arme.
On va voir ce qu'on vous a volé, monsieur. On a bien bouffé, on a bien bu, c'est déjà pas mal.
Moi, je veux vous voir baiser ma femme. À part devant, à part derrière. Pendant ce temps-là, je vous enculerai.
Bah et moi, alors? Je tricote?
Touche pas mon sexe, petite fille des verts condés, ce n'est qu'un prétexte.
on est de retour en studio sur les ondes de Radio Panique et de Radio Campus. Donc toujours un petit extrait de Tenue de soirée avec Michel Blanc, Miu Miu, Gérard Depardieu et Jean-Pierre Marielle. Un film que je vous recommande si vous ne l'avez pas encore vu, qui a été suivi du morceau Touche pas mon sexe du groupe Comics. Alors on va revenir au cinéma porno, revenir sur ce que disait Christophe Birk, à savoir que le cinéma porno se cherche aujourd'hui. Ce cinéma porno a une histoire. Donc j'ai rencontré hier Patrice Bauduinet, producteur et réalisateur belge, donc qui m'expliquait qu'au début, le porno, ça se passait dans les maisons closes pour exciter les clients. Qu'à cette époque-là, donc c'était parfois même réalisé par de grands réalisateurs qui profitaient d'une production en cours et notamment de son décor pour, en quelques jours, on appelait le chef-op et on organisait un porno. Donc par exemple, si on était en train de tourner un péplum, bon ben en trois mouvements, on faisait un porno romain par exemple. Ensuite, il y a eu les revues à caractère pornographique. C'était surtout les pays nordiques qui étaient producteurs et inondaient l'Europe de ces revues, vendues sous le manteau. Et puis, il y a le support pellicule qui est arrivé. Donc d'abord le 8 mm, ensuite le Super 8. Et ça correspond à une époque où le particulier peut s'acheter un projecteur, quoi. Donc les particuliers s'achetaient toujours à usage privé, personnel et anonyme des films porno qu'on projetait à la maison quand les enfants étaient couchés. C'est toujours les pays nordiques qui étaient en première ligne pour diffuser, pour exporter donc ces pellicules. Il y avait des catalogues disponibles et alors les points de vente, ça c'est assez drôle, les points de vente de ces bobines, donc on trouvait ça chez le photographe. Bon, là on comprend, c'est là qu'on achetait son projecteur. Ça se trouvait dans les sex shops, là aussi ça a tout son sens, mais ça se trouvait également dans le magasin de jouets. Donc quand papa venait avec ses petits-enfants, ses petites ouailles, les envoyer dans le rayon jouets Lego et vélo, et la vendeuse sous son guichet présentait les nouveautés du moment des dernières pellicules porno. Alors ensuite il y a eu les projections dans des salles, puisque ça correspondait, enfin le Super 8 marchait bien et il y avait vraiment une demande d'un public, donc là les projections sont devenues publiques et se faisaient dans des salles spécialisées. À l'époque, voilà, les temps de tournage étaient assez courts, en 3-4 jours on tournait un porno. En France, par contre, enfin voilà, donc en France, ça a été très vite surtaxé, interdit aux moins de 18 ans, et l'industrie du cinéma porno a périclité assez vite en France. Et puis aussi, il y a l'évolution donc des supports techniques qui explique le déclin de l'industrie porno, l'arrivée de la VHS, notamment avec plus besoin d'aller au cinéma pour voir un film. Donc ça vaut pour tous les genres de cinéma. Patrice Bauduinet me disait que dans les années 70-80, à Liège, il y en avait 3-4 de cinéma, à Bruxelles 5 ou 6. Et donc face à la concurrence des VHS, donc les salles étaient obligées de diversifier soit leur programmation, soit les activités qu'on y proposait. Et donc par exemple, vous pouvez très bien aller dans un cinéma qui projetait un Kurosawa un soir et qui le lendemain diffusait un porno. Par exemple, pour le cas de l'ABC, il s'est diversifié en proposant des spectacles de striptease. Oui, voilà. Et puis ensuite, il y a l'arrivée du DVD et d'Internet. Et donc, voilà, le cinéma porno ne peut plus concurrencer ces supports techniques, quoi. Il faut savoir que dans un sex shop, par exemple, un DVD peut s'acheter à hauteur de 60 €, quoi. Donc, c'est dire... que c'est pas rentable en fait du tout de faire du porno sur DVD. Voilà pour la petite histoire du pourquoi le cinéma porno a périclité. Voilà.
Et c'est un peu galvaudé aussi à cause d'Internet.
Ouais, maintenant il y a les films amateurs.
Les films amateurs. Et puis aussi, ce que nous on appelle le cinéma porno, enfin, correspondait pas forcément à ce qu'on appelait le cinéma porno à l'époque aussi. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner, parce qu'il y a la culture du porno qui reste à défendre et qui est importante et intéressante, parce qu'il y a une espèce de recherche autour de cette culture-là, et il y a une espèce de porno on va dire, commerciales, juste pour faire du pognon et balancer ce genre de, enfin, balancer des images hyper trash juste pour exciter un bonhomme. Et bon.
Ouais, oui, ça, c'est Christophe Beer le disait aussi. Il y en a qui font ça vraiment pour juste amasser un maximum de blé, et on peut plus vraiment parler de d'actes créatifs ou de réalisation de cinéma, quoi.
Oui, voilà. C'est toujours voyeurisme, et du coup, on sort de la culture porno.
On fait une petite pause. De retour en studio pour revenir donc au cinéma L'ABC situé boulevard Adolphe Max. Éric Vautier soulignait que sa localisation n'était pas anodine. C'est dans un quartier où il y a énormément de sex shops, de bars à hôtesses. Et donc il y a eu toute une politique, en fait. C'est derrière ça, il y a vraiment une politique communale pour que soit concentré géographiquement les activités liées au sexe.
Tout à fait, Naïma.
Ça va, je t'introduis mieux là.
Merci beaucoup.
Non, c'était très grand.
Voilà. Et donc, sur ce sujet, et pas particulièrement centré sur les cinémas porno, mais avant tout sur les sex shops. Il y a un livre qui fait un peu d'histoire sociale des sex shops en France et à Paris, qui a été publié il y a quelques années. Et donc, les mécaniques en France et en Belgique sont un peu similaires sur le regroupement géographique. C'est quelque chose que les conseils municipaux, les conseils communaux n'ont pas forcément envie de voir partout, et donc essayent de regrouper ça, principalement aux alentours des gares. Et donc voilà, il y a un extrait de ce livre, c'est il reprend une délibération du Conseil de Paris sur le sujet. Donc voilà, considérant l'étalage dans les
t'énerves.
Ouais, je préfère lire de la série Z que des délibérations du Conseil communal. Je suis vraiment désolé, quoi. Ils oublient de mettre des verbes. Donc considérant l'étalage dans les rues de Paris des affiches publicitaires illustrant la présentation des films érotiques, considérant que ces affiches constituent un objet permanent de scandale pour de nombreux Parisiens et sont de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre psychologique et à la santé mentale des jeunes, considérant au surplus le caractère agressif des dites affiches qui s'imposent au regard et attirent l'attention par leur vulgarité et souvent leur mauvais goût, considérant que la suppression de la censure impose, pour éviter tous les abus, la réglementation très stricte de la publicité des films cinématographiques, délibère, monsieur le préfet de police est invité à prendre toutes mesures en vue de mettre fin aux abus de la publicité en faveur des films érotiques dans les rues de Paris. Donc voilà, ça c'est 71, donc c'est l'époque de l'installation du cinéma ABC et tout ça. Et voilà.
Et voilà.
Et donc c'est un livre qui s'appelle Sex Shop, une histoire française, écrit par Baptiste Coulmont. Et voilà, aux éditions Dilecta.
Et donc, oui, c'est un quartier qui est en pleine mutation, en rénovation, en voie de gentrification. Donc voilà, est-ce que, enfin, une question centrale dans, sur la question de l'ABC, c'est qu'est-ce que va être la programmation et est-ce qu'il va continuer.
Est-ce qu'on va continuer à avoir des activités pornographiques? Et ça, du coup.
Et ça, du coup, voilà, on le disait en début d'émission, c'est une autre structure qui va gérer la programmation. Donc là-dessus, c'est une totale inconnue.
Ouais, il n'y a pas beaucoup de propositions. Enfin, il y a des propositions, mais rien n'est encore vraiment validé. Étant donné l'espace, étant donné qu'il y a une scène, vu que c'était un espace pour du striptease, donc il y a une scène qui devrait être faite a priori. Puisque bon, une stripteaseuse ou un groupe de rock'n'roll, c'est pas du tout le même poids. Et.
Ouais, je sais pas.
Quelque chose près.
Mais ouais, c'est vraiment une très très belle salle. La scène, moi, j'aime beaucoup. Enfin, ouais, je pense qu'au niveau des rénovations qui devront avoir lieu, évidemment, je pense qu'il n'y a rien encore de décidé non plus. Je pense que ce lieu-là est tel qu'on peut imaginer qu'il n'y ait pas d'ailleurs que de la projection cinéma, mais qu'il y ait également du spectacle, des concerts, etc. Au cours de la campagne pour le sauvetage du cinéma ABC, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, notamment pour récolter des dons. Et il y a pas mal de gens, en fait, ça m'a surpris, pas mal de gens qui insistaient pour dire « Ouais, ok, je veux bien donner, mais j'aimerais bien que ce cinéma garde son âme de cinéma porno et que les futurs programmateurs... »
Ah ouais, moi j'ai même eu... Moi je ne donne que si c'est encore du porno.
Ouais, et il y a même des anciens clients habitués du cinéma à l'ABC qui sont entrés en contact avec la Fondation Cinéacte pour leur dire que voilà, ils tiennent à ce lieu et qu'eux aussi aimeraient bien que perdurent certaines activités à caractère pornographique ou érotique ou érotico-pornographique, bref. Donc ouais. Voilà, c'est là où demeure toute l'inconnu. On vous invite à consulter donc le site du cinéma à l'ABC, donc www.abc-cinema.be. Demain, il y aura donc l'annonce. Donc consultez ce site parce que demain, il y aura l'annonce du dernier relevé de compte et savoir où on en est sur la collecte de fonds et les 60 000 euros qui sont désirés. Voilà, et donc si le bail va être signé ou non. Et puis vous entendrez sûrement parler très prochainement. Moi j'y crois, hein, je suis assez optimiste, je pense que le bail va être signé. Et donc prochainement, je pense que vous entendrez parler de la deuxième étape, quoi, qui sera de monter un projet culturel de programmation pour cette salle. Voilà. On arrive au terme de cette émission. D'ailleurs, on l'a dépassé un petit peu. On remercie donc Fred à la technique, Alexia pour les prises de son, l'animation, merci beaucoup. On remercie les gens donc, de Cinéact qui ont bien voulu répondre à nos questions. On a une pensée aussi toute particulière à un collectif qui s'appelle This is Radio Clash, qui nous a pas mal inspiré pour la programmation musicale. Voilà, cette émission sera rediffusée sur Radio Campus, comme on vous le disait en introduction. On salue Karine Demange particulièrement et on se quitte avec un dernier petit son. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine.
À la prochaine.
Salut, ici c'est Giorno La Rigiosa. Eh bien, aujourd'hui, mon message sera n'ayez pas honte de vous masturber. C'est-à-dire de vous branler. Ne vous tracassez pas de 1, ça ne rend pas sourd, et de 2, c'est bon pour la santé.